Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Des ribines qui nous emmènent à Châteauneuf-du-Fou cette semaine. Cette jolie bourgade vallonnée au pied des montagnes noires et au bord de l'Aulne. C'est là qu'ont vécu jusqu'à leur mort Paul Sérusier et Marguerite Sérusier au début du XXe siècle. Les deux artistes ont bel et bien été inspirés par la ville et sa campagne avoisinante. Ils y ont construit une maison et ils ont laissé des œuvres. Châteauneuf-du-Fou se devait donc de leur consacrer un musée et il a vu le jour en juin 2025. Il est tout neuf et il se construit peu à peu, comme en ce mois d'avril 2026.
Donc, je vous souhaite la bienvenue au musée Sérusier pour le premier vernissage du musée, puisque l'an dernier, peut-être que vous avez assisté à l'inauguration, mais donc... Ici, premier vernissage, parce qu'on avait encore beaucoup de trésors cachés en réserve à dévoiler au public. Et donc, on a refait un accrochage avec notamment beaucoup d'art graphique qui constitue la majorité de nos collections, mais dont je reparlerai un peu plus tard. Et donc, on va commencer la visite au deuxième étage. Donc je suis Alice Dupuis, responsable des collections et des expositions. On vernit la seconde partie de l'exposition inaugurale, avec en particulier de nouveaux arts graphiques sortis des réserves. Et à la fois, on inaugure un accrochage thématique au premier étage dédié à Marie-Renée Chevalier-Kerverne, en hommage à René Lebihan. Et l'accrochage complicité artistique, qui fait le lien entre Marie-Renée Chevalier-Kerverne, le couple Sérusier et la figure de René Lebihan.
C'est un musée dont les expositions de collection vont évoluer en permanence.
Oui, alors là, telle qu'elle est présentée, le mélange entre le permanent et le temporaire fonctionne bien. À l'avenir, peut-être que les espaces seront plus délimités, c'est-à-dire la présentation de nos collections, qui seront le parcours permanent, et puis une salle dédiée à des expositions temporaires sur Paul Sérusier, sur Marguerite ou sur d'autres artistes en lien avec le couple.
Ça montre que le musée est très moderne, qu'il est très riche.
Nadia Podziemskaya, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis là parce que j'ai travaillé sur l'accrochage de Marie-Renée Chevalier-Kerverne, l'hommage à René Lebihan, ensemble avec Alice Dupuis.
On comprend qu'il y a beaucoup de choses, qu'on ne peut pas tout montrer et qu'on renouvelle en permanence l'accrochage, ce que font les grands musées aussi. Mais peut-être pas toujours beaucoup, sur une partie au moins. C'est quand même une dynamique moderne d'un musée qui est jeune, dans lequel travaillent les personnes jeunes qui veulent apporter quelque chose de nouveau. Ça, c'est effectivement.
Pour le moment, les espaces sont mélangés. La collection permanente et l'exposition temporaire ne font qu'un, puisque l'exposition est dédiée à la révélation de notre collection permanente. Éventuellement, peut-être qu'on réfléchira à une réorganisation des espaces à l'avenir pour avoir peut-être un espace permanent et puis un espace dédié aux expositions temporaires qui changera tous les ans. Alors donc on débute la visite dans un espace qui présente la jeunesse de la collection. La commune de Châteauneuf a souhaité acquérir en 1978 une toile représentant un paysage local. Et c'est donc adressé à Henriette Boutaric, qui était la légataire universelle des Sérusiers. C'est donc cette toile-là, la foire à Châteauneuf-du-Fou de Paul Sérusier, qui a été acquise et qui est donc la première toile d'une grande collection.
C'est une auberge, c'est que le nom de l'auberge ici, à la descente des voyageurs. Je suis Thelma Pavanello, médiatrice au musée Sérusier depuis novembre 2025. Et vous avez également une boulangerie dans le même bâtiment. Alors ça montre un peu la vie économique à Châteauneuf-du-Fou à l'époque où Paul Sérusier a vécu ici. Le tableau est réalisé en 1903. Et là, ce que le tableau montre, décrit, c'est la foire de Châteauneuf-du-Fou.
La descente des voyageurs du train, alors?
Oui, et les gens viennent ici pour échanger. C'est aussi un moment de convivialité, un peu un moment festif aussi, la foire. Et ça réunissait énormément de bétail. Les chiffres exacts, c'est dans les...
Un million de vaches.
Un million de vaches, ouais.
Un million de vaches, ah oui, en effet. Et donc, c'est 1903, c'est ça le...
Voilà.
Donc, le parcours se poursuit dans les premières salles avec la présentation des premiers séjours bretons de Paul Sérusier et notamment de sa rencontre avec Émile Bernard et Paul Gauguin qui l'ont durablement marqué. Et en particulier, on n'a pas le talisman chez nous, c'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, mais on le présente comme on peut. Le talisman qui est donc une impression du bois d'amour à Pont-Aven, peint sous la leçon de Gauguin par Paul Sérusier, et qui est vraiment la toile qui va donner naissance ensuite à la confrérie des Nabis, un groupe que l'on présente ensuite dans la seconde salle du parcours. Et donc ici, la nouveauté cette année, comme je l'expliquais un peu plus tôt, c'est la rotation des arts graphiques. Les arts graphiques qui sont les dessins, les estampes, les fusains, tout ce qui n'est pas de la peinture. Ce sont des œuvres qui sont particulièrement fragiles, qu'on ne peut pas laisser à la lumière autant qu'une toile, par exemple. Et donc on est obligé de faire des rotations assez régulièrement. Et c'est donc parce qu'on a un fond d'art graphique assez riche qu'on a voulu le présenter. Par exemple, ici, une très belle caricature du couple qui présente Marguerite sous son plus beau jour et qui présente donc la confrérie des Nabis. Et un autre artiste qui est mis à l'honneur avec la rotation des arts graphiques, c'est Armand Seguin, qui est aussi proche de Paul Gauguin et des artistes Nabis. Il s'est vraiment révélé dans l'art graphique et notamment dans l'art de l'estampe et des eaux fortes. Et le musée Sérusier conserve près d'une quarantaine d'estampes, d'eaux fortes et de gravures, d'Armand Seguin, qui lui aussi est lié à Châteauneuf-du-Fou, puisqu'il y est décédé en 1903 et qu'il a vécu les derniers mois de sa vie auprès de Paul Sérusier, qui était un grand ami.
Et au total, votre collection d'art graphique, il y a combien d'œuvres, de combien d'artistes à peu près ?
Alors, on conserve tout support ou tout médium confondu environ 200 œuvres de beaucoup d'artistes différents. Paul Sérusier et Marguerite Sérusier, évidemment, leur lien artistique avec les Nabis, mais aussi d'autres artistes bretons que je n'ai pas présentés, puisque un moment fort de la construction de la collection, ça a été le legs de Suzanne Ivinec, qui a légué toute sa collection de tableaux à la commune. Et donc beaucoup d'artistes bretons qui séjournaient à Quimper, au Fawet, etc. Donc on a vraiment une multitude d'artistes et énormément de diversité dans nos collections à présenter.
Et les techniques, vous avez parlé un peu de estampes, d'eau forte, il y a quoi d'autre ?
Beaucoup de dessins, de la part notamment de Sérusier, qui croquait beaucoup les paysages de Châteauneuf. Des fusains également, de l'huile, et aussi des documents d'archives, des ouvrages, de la correspondance aussi. Une salle qui est vraiment intéressante parce qu'elle présente toutes les inspirations de Paul Sérusier et de Marguerite Sérusier également, qu'elles soient artistiques mais aussi spirituelles. Donc on a évidemment le japonisme qui a touché quand même énormément d'artistes au début du XXe siècle. Marguerite ne fait pas exception.
Et c'est un cerisier de Châteauneuf, là, pour le coup, en fleurs.
Exactement. Voilà, donc elle a réussi à transposer des sujets du Japon à un paysage de Châteauneuf.
Quand il n'y a pas l'œuvre physiquement, il y a quand même une médiation, c'est ça enfin...
Oui, il y a la médiation qui aide quand même au public à comprendre le fil conducteur de l'exposition. Et par exemple ici, les Ondins sont accrochés dans une partie qui est dédiée aux mythes et légendes. Alors Paul Sérusier aimait beaucoup les légendes bretonnes, mais également européennes. Et là, on a ce tableau qui est mis en dépôt au musée. Ça vient d'une collection particulière, c'est pas une propriété de la mairie de Châteauneuf-du-Fou, mais qu'on a le grand plaisir d'accueillir puisque c'est un des tableaux qui ornait les murs de la maison de Paul Sérusier. Alors dans ce tableau, il va représenter les Ondins, c'est une figure qui vient de la mythologie, du folklore du nord de l'Europe.
C'est quoi, c'est des sirènes au masculin, non ?
Un peu ça, ouais, ça ressemble à des petits singes avec des pattes palmées, hein, et là, il les représente dans le goût gouffre de Ouéouat, parce qu'on sait que Paul Sarrusier a aussi fréquenté la commune de Ouéouat pendant une période qui a beaucoup marqué son œuvre. Et là, on a le grand plaisir de recevoir cette œuvre, le privilège de l'avoir avec nous.
Et le Ouéouat n'avait pas d'œuvre à prêter à Châteauneuf, non?
Je ne pense pas. Mais on a également un autre tableau dans la salle d'avant, qui est la pluie sur la route à Ouéouat. Il y a un très très beau tableau de Paul Sarrusier. Et voilà. Alors, le travail de la médiation, c'est expliquer qu'est-ce qui est représenté dans les tableaux, faire le lien avec la phase correspondante dans la carrière de l'artiste et agrandir de cette façon le plaisir des visiteurs qui sortent d'ici avec une compréhension un peu plus grande quand même, puisqu'on n'a pas toujours envie de lire tous les cartels, ça peut être un peu fatigant aussi.
Oui, c'est ça, il y a aussi du numérique. Ouais. Et quand vous parlez de l'art de la tapisserie, c'est pour quelle raison en fait? Quel est le lien?
Pourquoi? Alors là, c'est le goût de Paul Sarrusier aussi pour les représentations qui font en envoi un peu au Moyen-Âge, parce qu'il trouvait très intéressant déjà la perspective qu'on utilisait dans les œuvres du Moyen-Âge, qui n'était pas exactement la perspective à laquelle le public de son époque était habitué, puisque depuis la Renaissance, on avait la perspective avec un point de fuite. Au Moyen-Âge, les figures se superposent un tout petit peu dans les paysages. Parfois, ça peut être un peu bizarre aussi. Il s'inspirait beaucoup de tapisseries, comme le cycle de la Dame à la Licorne. Et là, on voit qu'il y a une absence presque totale de perspective. On a l'impression que les petits animaux, les petites fleurs flottent un peu dans l'image. Et c'est quelque chose qui fait un peu rêver. Et on trouve un peu cette chose-là représentée aussi dans les tableaux de Paul Sarrusier.
Qui ne pratiquait pas la tapisserie lui-même.
Qui ne pratiquait pas. Par contre, Marguerite Sarrusier, oui, elle a été très intéressée par la broderie, par les arts décoratifs. Et en sa compagnie, ils sont allés voir plusieurs ouvrages. On sait que la tapisserie de l'Apocalypse également, c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Et ici, on voit dans l'œuvre de Sarrusier un peu l'influence avec ce tableau qui s'appelle Le Concert, où on a ces dames qui, il y a une qui joue de l'orgue, les deux autres chantent, et on voit un peu l'écho aux chanteuses représentées par les petits oiseaux qui sont sous la branche des arbustes derrière. Mais ce paysage derrière, on ne sait pas trop dire à quoi ça correspond. Ça donne un peu l'impression de ce qu'on voit dans les tapisseries du Moyen-Âge. On ne sait pas si ces musiciens ne se trouvent à l'extérieur, ou si elle se trouve à l'intérieur d'un manoir où il y a une tapisserie accrochée derrière. C'est quelque chose qui fait aussi travailler l'imagination de visiteurs quand ils regardent le tableau.
Est-ce que vous avez eu des manifestations spontanées justement de possesseurs d'œuvres des Sarrusier du fait de la création du musée?
Oui, alors on a eu deux dépôts, donc celui-ci et un que je vous présenterai après. Beaucoup de collectionneurs privés ont prêté des œuvres, on a des prêts vraiment qui ponctuent tout le parcours. Et puis la population a donné beaucoup d'objets ayant appartenu au couple au musée lors de sa création.
Donc là, pour savoir ce qui est de l'ordre de l'exposition temporaire, enfin d'ailleurs, c'est jusqu'à quand l'exposition temporaire?
Jusqu'au 10 janvier 2027.
Et comment savoir ce qui est de l'ordre de l'exposition temporaire et de ce qui est de l'ordre de la collection permanente?
Déjà, pour le visiteur, c'est marqué sur les cartels. Quand c'est la collection du musée, c'est marqué achat et l'année d'achat. Et sinon, c'est marqué collection particulière ou le nom du musée qui est en train de prêter l'œuvre. Directement marqué sur le cartel.
Marina Gaillard, chargée des publics du musée Sarrusier. Cette salle, la première partie où on se trouve ici, est plus consacrée à la figure de Marguerite Sarrusier, qui était l'élève de Paul Sarrusier. Donc elle était également une artiste accomplie. Elle a commencé à prendre des cours de dessin qui lui ont beaucoup plu. Et elle va devenir professeure de dessin dans un deuxième temps. Donc pour des écoles, puis des collèges et des lycées. Elle a été repérée, elle a fait plusieurs expositions, notamment en salon, donc un lieu très important au 19e siècle. Et elle va vouloir poursuivre son apprentissage en rentrant dans l'Académie Rançon, qui était une école fondée par les Nabis, en fait.
Elle faisait partie officiellement des Nabis, Marguerite Sarrusier?
Pas officiellement, dans le courant des Nabis, parmi les artistes reconnus, il n'y a pas de femmes. C'est une confrérie assez masculine. Elle était quand même très proche de Paul, elle a été son élève. Elle était réputée être la meilleure élève de l'académie d'ailleurs. Et elle a été repérée par son professeur Paul. Elle a décidé de le rejoindre à Châteauneuf-du-Fou, puisqu'ils se marient en 1912 et l'artiste habite, donc Paul Sérusier habite déjà à Châteauneuf à ce moment-là. Il a emménagé en 1906 dans sa maison et elle le rejoint donc ici. Donc là, dans la vitrine, on a exposé des objets personnels du couple Sérusier, puisqu'ils sont restés une très très grande partie de leur vie ici. Et il faut savoir que Marguerite également a distribué des objets en fait aux Châteauneuviens, donc des objets qu'elle avait créés ou des objets qui lui tenaient à cœur également.
Il y a ces petits sacs à main, c'est elle qui les avait faits ?
Alors, le petit sac à main brodé, on pense que c'est elle, effectivement. Les coussins également, on pense que c'est elle. Donc là, c'est attribué à. Mais il y a de fortes chances que, un peu comme les artistes Nabi, ils voulaient sortir de l'espace de la toile, aller explorer. Et donc là, on pense que ces objets du quotidien, effectivement, ça lui permettait d'exprimer une autre forme d'art.
C'était l'époque, en fait, les artistes qui touchaient un peu à toutes les techniques, comme les Sèvres-Breuer et tout ça.
Voilà, c'est ça, c'est le 19e, c'est vraiment l'époque. Et on voit bien que même si elle n'est pas reconnue comme artiste Nabi, il y a quand même des choses qu'elle est allée puiser, donc, notamment le fait que les Nabis vont beaucoup s'accaparer le décor, vont essayer de peindre en dehors de la toile. Et on voit que Marguerite, aussi, elle choisit d'autres formes d'art au quotidien.
Et la canne et les chapeaux de Paul, je suppose.
Oui, donc il y a les chapeaux de Paul, la canne, puisque Paul Sérusier boitait. C'est vrai que c'est des objets assez intimes, mais qui montrent bien leur lien. Donc dans cette salle, on ne voit pas tellement de témoignages, ce sera plus dans la salle d'après. Mais vraiment, le couple Sérusier ne s'est pas contenté d'être à Châteauneuf. Ils ont vraiment vécu à Châteauneuf, ils ont eu des échanges avec les habitants. Ils ont peint également des traditions importantes pour la commune. Je pense notamment au Pardon de Notre-Dame-des-Portes. Donc, il y a un célèbre tableau qui est exposé au Musée des Beaux-Arts de Quimper, qui est actuellement à Pont-Aven. Et nous, on a le Pardon, peint par Marguerite, cette fois-ci, qui ornait la gare de Carhaix. Le panneau a été récupéré a posteriori, mais donc ça montre vraiment qu'ils avaient à cœur de mettre en avant les traditions de Châteauneuf. Et également, le musée est installé juste en face de l'église Saint-Julien, qui abrite le seul décor peint encore visible de l'artiste, puisque Paul Sérusier a fait de nombreux décors. Donc pour son ex-compagne Gabriela Zapolska, il en a fait dans plusieurs lieux également, également dans sa maison. Sa maison est propriété privée, donc ne se visite pas. Et si on veut voir des décors peints sur les murs par Paul Sérusier, il faut donc aller dans cette église Saint-Julien, dans le baptistère. Donc c'est une œuvre qu'il a commencée en 1914, avant la guerre. Il s'est arrêté lorsque la guerre a sonné, il a repris qu'en 1919 pour finir. Donc il a même marqué le mot « Pax », le mot « Paix » sur son œuvre. Mais ça montre vraiment que le couple était très attaché à la commune, qu'il n'était pas juste là, quoi. Vraiment, il vivait auprès des habitants. Et c'était également important pour nous de montrer ce lien, cette connexion avec Châteauneuf et le territoire. Dans cette salle, on met en avant Marguerite. Et c'était donc plutôt logique que l'on mette notre accrochage temporaire, qui est complicité artistique, dans cette salle, puisqu'on a le lien avec Marguerite, qui est donc l'hommage à René Lebihan via les œuvres de Marie-René Chevalier-Carverne. Mais je pense que madame en parlera beaucoup mieux que moi.
Madame, c'est Nadia Podzemskaya, qui est directrice de recherche CNRS, historienne des arts, et elle n'est pas toute seule.
Lorenzo Vinciguerra, professeur d'esthétique à l'Université d'Amiens et à l'Université de Bologne en Italie. Je suis le petit-fils de Marie-René Chevalier-Carverne. Et j'ai aidé Nadia dans cette aventure pour présenter l'œuvre de Marie-René Chevalier-Carverne en hommage à René Lebihan, que nous avions très bien connu.
René Lebihan a été le conservateur et créateur du Musée des Beaux-Arts de Brest de 1964 à 2002.
Alors, donc juste pour redire quelques mots sur René Lebihan et la raison pour laquelle on lui rend hommage au Musée Sérusier, c'est parce qu'il a œuvré pour sa reconnaissance, pour Paul Sérusier, mais aussi pour le groupe des Nabis. La collection qu'il a constituée au Musée des Beaux-Arts de Brest a donné une place forte à ce groupe d'artistes. Il a œuvré vraiment pour sa reconnaissance. Il a participé au comité Sérusier qui œuvre depuis des années à la reconnaissance de Paul Sérusier en répertoriant les œuvres et en faisant un gros travail de recherche sur l'artiste. Et donc, notre hommage à René Lebihan nous a poussé à développer notre propos sur la postérité des Sérusiers et sur les figures qui ont œuvré à la reconnaissance, à la transmission de l'œuvre de Paul Sérusier après sa mort en 1927. La première à l'avoir fait, c'est sa femme, Marguerite Sérusier. On l'a vu aussi, Marie-Renée Chevalier-Kerverne, qui a organisé la rétrospective en 1938. Et puis ensuite, René Le Bihan, qui a acquis beaucoup d'œuvres de l'artiste.
Je dois dire que c'est très émouvant de voir ces œuvres exposées si bien ici, comme si vraiment l'impression était comme s'ils étaient faits pour cet endroit. Et c'est un événement important, parce que c'est une artiste qui n'a pas eu d'exposition depuis bientôt 45 ans. Elle est décédée il y aura 40 ans l'année prochaine, et l'année prochaine aussi, il y aura 125 ans de sa naissance. Ça veut dire qu'on aimerait bien que cet accrochage porte à quelque chose de plus grand dans le futur assez proche. À travers cet accrochage et à travers cette idée des complicités artistiques ou des amitiés artistiques, on peut revoir l'histoire de l'art en Bretagne et même un peu plus large, peut-être en France, du XXe siècle de manière différente. Comme quand on a déplacé le regard vers Marguerite Sérusier, pas seulement à Paul Sérusier, on a vu beaucoup de choses, on a vu les personnes qui étaient au centre vraiment de médiation, de transmission, de filiation artistique. Là, on commence à compléter ce regard de manière vraiment très riche, parce qu'ici, en vérité, il y a des narrations, il y a des fils de narrations qui se croisent de manière incroyable.
Il y a deux types d'œuvres, pour donner le côté visuel, il y a vraiment deux types d'œuvres très différentes.
Complètement, parce que là, d'un côté, vous avez deux étoffes abstraites de la dernière période de l'artiste. Ça, c'est un Vendredi Saint, et là, nous, on est un Vendredi Saint. Ça, c'est une œuvre de 64, je crois. L'autre œuvre, c'est de 81 ou 82, là, je ne me souviens pas maintenant. Et ce sont les œuvres abstraites qui sont de la collection personnelle de René Le Bihan. Et les deux œuvres qui sont au centre, qui sont des années 30, représentent la période de la fréquentation, de l'amitié de Marie-Renée Chevalier-Kerverne avec Marguerite Sérusier, qui est du figuratif, qui est en résonance avec les œuvres que vous voyez dans la salle et au musée. Ce sont les deux œuvres qui n'étaient pas dans la collection de René Le Bihan. Alors moi, je voulais dire sur René Le Bihan quand même, il est décédé il y a un an. Ce sont les œuvres de sa collection personnelle. C'est lui qui a fait la dernière exposition de Marie-Renée Chevalier-Kerverne. Un carton d'invitation pour cette exposition en 82. Des étoffes cousues, une seule, en vérité, importante rétrospective de l'artiste en 70 au musée de Brest. Et voilà, c'est le catalogue de cette exposition qui est en noir et blanc, la petite brochure qui est restée jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui encore, la seule publication dédiée à cet artiste qui en mérite beaucoup, beaucoup plus.
Déjà, ne serait-ce que la technique de l'étoffe cousue, enfin moi je ne connaissais pas, c'est très répandu
C'est l'art de textile dans les années 60, à partir des années 50-60, a été un grand genre de l'art. Il y a eu des grands artistes femmes qui se sont distinguées, comme Sheila Hicks, comme Magdalena Bakanovic, souvent les étrangères. Mais il y a eu des biennales de l'art textile à Lausanne, par exemple, à partir des années 60, qui ont été tout le temps. Mais Marie-Renée Chevalier-Kerverne le fait différemment. Pour elle, ce n'est pas un genre de l'art textile. Ça n'a rien de l'art féminin, si l'on veut. C'est de la peinture faite par les autres moyens.
Oui, alors ça, c'est toute une histoire et tout un cheminement dans l'art moderne et l'art notamment de l'après-guerre. C'est en 58, en retour d'un voyage d'Espagne, elle fait sa première étoffe. Alors, comment ça se passait? Elle disposait sur le sol un support de jute et sur lequel elle jetait à même le sol, à même la toile, des étoffes qu'elle avait découpées ou arrachées. Elle avait tout un stock comme ça, une palette textile immense. Et une fois qu'elle avait trouvé la bonne disposition, elle épinglait tout ça. Et ensuite, il y avait des heures, des jours, des semaines de couture.
Forcément à la main d'ailleurs, parce que absolument. Le point lui-même fait partie de l'œuvre d'art.
Voilà, vous avez compris un point essentiel, c'est le cas de le dire, puisque il n'y a aucun travail mécanique. Il y a le choix du fil qui est important, le choix de où on coud, en bordure ou dans l'étoffe même, la couleur du fil, sa grandeur, etc. Donc la question du fil, c'est un peu l'équivalent du dessin, et l'étoffe, c'est la peinture.
Il y a presque 100 et 120 œuvres qui sont monumentales.
Ça dépasse les 3 mètres en longueur et en hauteur, ça peut atteindre 2,50 mètres.
Ouais, c'était absolument aussi une possibilité de faire les œuvres monumentales dans un atelier qui était assez petit, parce que pour faire la toile, peut-être c'était pas possible, alors qu'avec les étoffes, on arrivait à le faire. Oui. Et aussi, c'est une espèce une œuvre dans l'œuvre, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des thématiques, il y a tout un aspect sacré, voilà, il y en a beaucoup. Et aussi, il y a porte orientale, ça veut dire qu'il y a une porte vraiment vers les autres civilisations. L'église arménienne, le chant bolivien, il y a un chant pour un prisonnier, il y a vraiment une ouverture. Mais là, il y a deux choses qu'il faudrait dire. Une, c'est que déjà chez Paul Sérusier, il a apprécié aussi d'un côté cette aspiration spirituelle et d'autre côté aussi ce qu'elle disait, le primitif.
Alors, on a une grande correspondance de Sérusier, notamment avec Maurice Denis, un autre artiste nabi. Par contre, toutes ces théories, il ne les a pas écrites lui. C'est surtout Maurice Denis qui a rassemblé par la correspondance et qui en a fait un ouvrage que vous avez ici, deux éditions, l'ABC de la peinture, le premier du vivant de l'artiste, et ensuite tout ce qui a été écrit s'est fait après la mort de l'artiste en 27, donc la seconde édition de l'ABC de la peinture, avec la même édition en bas, annotée par Marie-Renée Chevalier-Carverne, donc on voit encore les liens ici, et donc elle annote le disque chromatique d'après une lettre qu'elle a reçue de Marguerite Sérusier, qui corrige en fait certaines des couleurs. Alors elle explique que le bleu d'outre-mer, il n'aurait jamais écrit ça parce que c'est le bleu des blanchisseurs, et donc c'est un autre bleu, et donc toutes ces corrections ont été réécrites ensuite de la main de Chevalier Carverne. Et puis on a aussi juste à côté le compte rendu de l'exposition qu'elle avait organisée en 1938, donc la rétrospective à Brest. Donc voilà, on a un ensemble de témoignages de la transmission de l'œuvre, de la reconnaissance de son œuvre, des difficultés surtout, de ses proches, de sa famille et d'autres artistes, d'essayer de le faire connaître en dehors. Alors même à Châteauneuf, finalement, on ne le connaissait pas si bien que ça à l'époque. Mais donc voilà, d'essayer d'œuvrer pour qu'il ait une place dans l'histoire de l'art.
Paul Sérusier rencontre Paul Gauguin à Pont-Aven en 1888. L'année suivante, ils découvrent ensemble le Pouldu, un petit hameau près de la mer. Lettre de Paul Sérusier à Maurice.
Ça vaut vraiment la peine de venir visiter ce musée qui est très beau, qui est très bien fait, très accueillant, et qui auberge une très belle collection des œuvres de Paul et de Marguerite Sérusier, entre autres choses. Voilà, donc c'est une invitation à toute la citoyenneté et au-delà pour visiter ce beau musée.
Maurice Denis.
Le musée Sérusier est situé en plein centre de Châteauneuf-du-Fou. Il est ouvert du mardi au dimanche, du mois d'avril au mois de décembre inclus. Les horaires et les informations pratiques sont disponibles sur son site internet musée-sérusier.bzh.